Chers auditeurs, je vous souhaite, au nom de tous les chroniqueurs que vous commencez à bien connaître maintenant, la bienvenue pour le troisième épisode de notre podcast Parlons Europe. Je tiens tout d'abord à souligner que, comme d'habitude, c'est un réel plaisir de vous retrouver. Au programme aujourd'hui, il est question de la liberté de la presse, plus généralement des médias, allant souvent de pair avec la liberté d'expression, toutes deux considérées comme des ciments de nos régimes démocratiques. Et pourtant, paradoxalement, je dirais même, ces libertés n'ont jamais autant été questionnées, disputées et menacées. Je pense notamment à quelque chose que chacun de nous a probablement en tête, le fameux « on ne peut plus rien dire », refrain que l'on entend souvent. Mais alors, qu'en est-il réellement ? Entre reconfiguration de la sphère médiatique avec l'affirmation de nouveaux phénomènes, désinformation, intelligence artificielle parmi d'autres, et exacerbation des critiques, pression et censure, les libertés auxquelles nous sommes si attachés ne seraient-elles pas, elles aussi, en pleine reconfiguration ?
L'Europe ne se fera pas d'un coup, elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
La construction européenne reste l'événement le plus important des 50 dernières années. C'est l'Europe qui a vraiment changé le destin, l'espoir, la confiance que nous pouvons avoir dans l'avenir.
Pour commencer, Lucie, pourrais-tu nous dire ce que l'on entend par liberté de la presse et plus globalement des médias ? Liberté de presse et d'expression désigne-t-elle la même chose ? On peut se demander, à juste titre, ce qui se cache derrière ces termes, souvent employés à tort et à travers, que l'on entend partout et tout le temps, mais qui est en réalité difficile de définir précisément, sans risquer de les dévoyer.
La liberté de la presse est un droit universel que résume l'article fondateur numéro 11 de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui statue que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Ça, c'est la définition la plus objective, la plus ferme que je pourrais vous donner. Un principe à vocation universelle, fondé par les Lumières, mais qui reste à être entériné par la loi. Et si je vous parle de 1789, ce n'est pas un hasard. C'est au XVIIIe siècle que de nombreux historiens datent la naissance, les racines, de l'idée contemporaine qu'on a d'une nation démocratique, et subséquemment, de la liberté de la presse européenne moderne. Elle s'enracine dans des débats intellectuels du XVIIe au XIXe siècle, quand se forgent les premières justifications philosophiques de la liberté d'expression, opposées à l'autorité politique ou religieuse. Des notions qu'on retrouve déjà dans l'antiquité gréco-romaine avec des principes comme l'iségoria, qui désignait la distribution égale de la parole publique sur l'agora à Athènes. C'est en défendant la liberté d'expression que des penseurs comme John Milton, Anders Chydenius et John Stuart Mill, et bien d'autres encore d'ailleurs, font de la presse un lieu de débat philosophique et de critique politique. Les idées de liberté et de réflexion rationnelle portées par les Lumières sont largement partagées en Europe. C'est la naissance du média comme contre-pouvoir, un lieu où tout citoyen peut affirmer « j'accuse », comme l'a fait Émile Zola en 1898. Au XIXe, plusieurs États européens adoptent des lois qui poursuivent cette logique libérale en l'inscrivant dans le droit positif. Comme la France, avec la loi du 29 juillet 1880, qui entérine la liberté d'imprimer et de publier sans autorisation préalable. La pionnière est la Suède, qui dès 1766 adopte le Freedom of the Press Act, considéré comme la première loi constitutionnelle garantissant une liberté de la presse au sens moderne. Aujourd'hui, la liberté de la presse est inscrite dans la Convention européenne des droits de l'homme, qui date de 1950 et qui protège la liberté d'expression, comprenant la liberté de communiquer des idées ou des informations. Elle est également rappelée dans la Charte des droits fondamentaux de l'UE depuis 2001, faisant des libertés de la presse et d'expression un principe fondateur du droit primaire européen, que tout membre est tenu de respecter. Alors non, liberté d'expression et liberté de la presse ne sont pas synonymes, mais il est évident que la seconde découle de la première, et toutes deux trouvent leur source dans un vaste héritage philosophique et politique, fondant leur légitimité dans le champ juridique.
Merci Lucie pour ta réponse, qui permet de bien comprendre que si liberté de presse et liberté d'expression sont intimement liées, elles ne sont pas interchangeables pour autant. Ce qui me frappe encore avec ta réponse, Lucie, c'est l'importance de la dimension légale de ces libertés, ce qui montre bien qu'en théorie, elles sont protégées par un cadre d'ordre juridique. Pourtant, et c'est ce qui fait l'objet de ma seconde question, pour toi Jade, ce cadre est-il encore suffisant aujourd'hui ? Et là, je reviens à notre fameux « on ne peut plus rien dire ». Cela signifie-t-il que le cadre légal actuel est trop contraignant, ou bien au contraire, ne l'est-il pas assez ?
Ce qui ressort effectivement, c'est que la liberté d'expression et la liberté de la presse sont solidement ancrées dans un cadre juridique, ce qui montre qu'en théorie, elles sont protégées. L'Europe reste d'ailleurs, à l'échelle mondiale, l'une des régions les plus protectrices pour les journalistes, en comparaison avec l'Asie, l'Afrique ou l'Amérique latine. Mais cette position de « modèle » est de plus en plus fragile. Depuis une dizaine d'années, on observe une érosion progressive de ces libertés plutôt qu'un effondrement brutal. d'où la question centrale, ce cadre légal est-il encore suffisant aujourd'hui face aux évolutions récentes et aux nouvelles menaces ? Si l'on raisonne de manière globale, sans entrer dans les différences nationales, plusieurs menaces communes se dégagent. On constate notamment une pression politique et institutionnelle accrue, y compris dans des démocraties installées. Tentatives d'influence sur les médias publics, discours politiques hostiles aux journalistes ou restrictions de l'accès à l'information. Dans certains pays européens, on parle même de « média capture », c'est-à-dire d'un contrôle indirect du paysage médiatique par le pouvoir. À cela s'ajoutent les attaques contre les journalistes. Par ailleurs, de plus en plus souvent, ce sont les procédures judiciaires abusives qui servent à faire taire. Enfin, une menace transversale pèse sur l'ensemble du secteur. La crise économique des médias. La chute des revenus publicitaires, la concentration des groupes de presse et la précarisation des journalistes favorisent l'autocensure et réduisent le temps consacré à l'enquête. Cela affaiblit concrètement la liberté de la presse, même lorsque le cadre légal reste inchangé. C'est dans ce contexte que revient l'expression « on ne peut plus rien dire ». Pour certains, elle traduit l'idée que le cadre légal serait trop contraignant, notamment avec les lois contre les discours de haine ou la diffamation. Mais on ne peut défendre l'analyse inverse. Le cadre n'est pas assez efficace car il peine à protéger réellement les journalistes et à réguler les nouveaux espaces d'expression, notamment numériques. Ces libertés s'inscrivent dans une double dimension juridique. D'un côté, il existe un cadre européen, avec la Convention européenne des droits de l'homme, et plus récemment une prise de conscience plus forte de l'Union européenne elle-même. Longtemps absente sur ces questions, l'UE reconnaît désormais que sans médias libres, il n'y a pas d'état de droit. Cela se traduit par des textes récents, comme les initiatives contre les procédures SLAPP ou l'European Media Freedom Act, qui vise à renforcer l'indépendance éditoriale, la transparence et la protection des sources. De l'autre côté, il y a les cadres législatifs nationaux qui restent centraux. L'UE fixe un cap, mais ce sont les États qui appliquent avec de fortes disparités. Certains pays conservent des garde-fous solides, d'autres voient ces protections s'affaiblir. Les réactions européennes existent. Pression politique, conditionnalité des fonds, mais elles restent souvent lentes et limitées. Enfin, on peut faire un lien direct avec l'accessibilité des médias. Lorsque la liberté de la presse recule, l'accessibilité est souvent la première variable sacrifiée. Moins de moyens, moins de priorités pour les publics marginalisés. Or, un média qui n'est pas accessible n'est pas pleinement libre, car une information à laquelle on ne peut pas accéder n'est pas réellement une information partagée. En soi, le cadre légal européen et national existe toujours et demeure indispensable, mais il est aujourd'hui mis sous tension. Le véritable enjeu n'est pas de dire qu'on ne peut plus rien dire, mais de savoir comment renforcer et actualiser ce cadre pour qu'il protège effectivement la liberté d'expression et de la presse face aux nouvelles menaces contemporaines.
Alors, comme tu viens de l'évoquer, Jade, liberté de presse et d'expression s'inscrit dans l'ordre de deux échelles de législation. D'un côté, il y a le cadre européen, et de l'autre, le cadre national, ou plus exactement, des cadres législatifs nationaux. Honorine, dirais-tu que, par conséquent, les pays européens font face aux mêmes défis lorsqu'il s'agit de liberté de la presse et d'expression ? Ce cadre législatif double, pouvons-nous dire qu'il est source de tension ?
Alors, merci pour cette question, parce qu'elle permet justement de sortir d'une vision un peu uniforme de l'Europe qu'on pourrait avoir, qui serait un continent ultra-démocratique. En vérité, non, les pays européens ne font clairement pas face aux mêmes défis en matière de liberté de la presse et d'expression. Et c'est même l'un des grands paradoxes de l'Union européenne. Comme on l'a vu, d'un côté, l'UE reste globalement l'un des espaces les plus protecteurs au monde pour les journalistes, tant sur le plan juridique que symbolique. La liberté de la presse est consacrée comme un droit fondamental au sein de la Charte de l'Union européenne, et de nombreux mécanismes existent pour la défendre. Mais d'un autre côté, on observe depuis une dizaine d'années une dégradation réelle et préoccupante dans plusieurs États membres. Les classements internationaux, comme ceux de Reporters sans frontières ou de Freedom House, montrent un recul global du score politique lié à la liberté de la presse en 2024-2025. Cela signifie qu'aujourd'hui, même au sein de l'Union européenne, ces libertés ne vont plus de soi et peuvent être fragilisées de l'intérieur. Il existe en réalité un véritable patchwork médiatique européen. Les pays nordiques, comme la Suède, la Finlande ou le Danemark, continuent de figurer en tête des classements. Cette situation s'explique par des traditions démocratiques anciennes, une culture très forte de la transparence, un accès facilité aux données publiques, et surtout une indépendance réelle des médias publics vis-à-vis du pouvoir politique. Les journalistes y bénéficient d'un environnement relativement sûr, avec peu de pression politique directe et des contre-pouvoirs institutionnels solides. À l'inverse, plusieurs pays d'Europe centrale ont connu des reculs parfois rapides, souvent liés à des changements politiques internes. Ces États ne connaissent pas nécessairement une censure brutale ou visible, mais plutôt des transformations progressives du paysage médiatique, qui affaiblissent le pluralisme sur le long terme. La Hongrie est sans doute l'exemple le plus emblématique de cette évolution. Alors attention, la liberté de la presse n'y a pas été supprimée de manière autoritaire ou spectaculaire. Juridiquement, les médias existent toujours et la censure n'est pas inscrite dans la loi. Mais dans les faits, le paysage médiatique a été profondément remodelé au cours des années 2010. En effet, de nombreux médias privés ont été rachetés par des entrepreneurs proches du pouvoir et regroupés au sein de grandes structures favorables au gouvernement, notamment la fondation Kesma. Cette concentration n'a pas fait disparaître l'information critique, mais elle l'a rendue marginale, en réduisant drastiquement ses ressources, sa visibilité et son audience. On est donc face à une érosion silencieuse du pluralisme, beaucoup plus difficile à dénoncer et à combattre qu'une censure frontale. La Pologne offre elle aussi un autre type de configuration. Entre 2015 et 2023, sous les gouvernements conservateurs, ce sont surtout les médias publics qui ont été placés sous un contrôle politique étroit. Les directions ont été remplacées, les lignes éditoriales réorientées et l'opposition a été largement disqualifiée à l'antenne. Là encore, il ne s'agissait pas d'interdire les médias privés, mais de transformer les médias publics en instruments politiques, influençant ainsi une partie importante de l'opinion. Cette stratégie est d'autant plus efficace que les médias publics conservent une forte légitimité auprès de certains publics. Pour illustrer tout cela, j'aimerais parler de l'affaire Daphne Caruana Galizia à Malte, qui a marqué un tournant en Europe. En fait, c'était une journaliste d'investigation maltaise très connue dans son pays pour ses enquêtes sur la corruption, les conflits d'intérêts et les liens entre responsables politiques, milieux d'affaires et criminalité. Elle travaillait notamment sur les Panama Papers, révélant des montages financiers impliquant des figures proches du pouvoir. Avant même son assassinat en 2017, elle faisait déjà face à une pression considérable. Au moment de sa mort, elle était visée par plus de 40 poursuites pour diffamation, infantées par des responsables politiques, des hauts fonctionnaires et des acteurs économiques influents. Ces procédures ne visaient pas seulement à contester ses enquêtes, mais surtout à l'épuiser financièrement et psychologiquement. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les procédures Bayon, ou SLAP, des actions en justice utilisées comme un outil de dissuasion plutôt que comme un véritable recours juridique. Le 16 octobre 2017, elle a été assassinée près de son domicile. Ce choc a profondément ébranlé Malte, mais aussi l'ensemble de l'Union européenne, car il rappelait brutalement que même au sein de l'UE, un journaliste pouvait être réduit au silence de manière extrême. L'enquête qui a suivi a mis en lumière un climat de corruption systémique et de forte défaillance institutionnelle, ainsi qu'une incapacité de l'État à protéger une journaliste pourtant menacée depuis longtemps. Ces procédures visaient moins à obtenir justice qu'à l'épuiser financièrement et psychologiquement et à envoyer un message dissuasif à l'ensemble de la profession. Ces différents exemples montrent que les défis liés à la liberté de la presse en Europe sont multiples et profondément inégaux. Ils révèlent surtout une réalité essentielle. La liberté de la presse n'est pas seulement une question de loi, mais aussi de rapports de force politiques, économiques et culturelles. Et c'est précisément cette diversité de situations qui rend la protection européenne à la fois indispensable et insuffisante si elle n'est pas activement défendue.
Ce que je trouve frappant avec tout ce que l'on a dit jusqu'ici, c'est la grande complexité que revêtent les notions de liberté de la presse et liberté d'expression.
En réalité, on se rend compte, comme tu le dis, Mathéo, que sous leur apparente simplicité, ce n'est pas si simple. Mathéo, justement, peut-on dire que ces libertés que l'on considère fondamentales sont aujourd'hui plus que jamais influencées, voire concurrencées par des facteurs d'ordre politique, économique et même juridique ?
Alors, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut en réalité la prendre à l'envers. Il s'agit plutôt de voir en quoi la liberté de presse, engageant donc, on l'a compris, la liberté d'expression, ne peut pas être absolue et donc est nécessairement relative, c'est-à-dire influencée par des facteurs, tout d'abord d'ordre juridique, mais également politique et économique. Je vais d'abord me concentrer sur la liberté d'expression, puis je reviendrai par la suite sur la liberté de la presse. Si je reprends le fameux « on ne peut plus rien dire », avec cette idée qu'il n'y aurait plus de liberté d'expression par un cadre légal trop contraignant, eh bien en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la liberté d'expression constitue en partie ce cadre légal. On comprend alors que l'on ne peut pas tout dire, ce qui engage une reformulation fondamentale, il est possible de s'exprimer dans la limite du cadre que constitue la liberté d'expression. J'aimerais, pour approfondir un peu cette idée, m'appuyer sur un article de Charles Girard qui s'intitule « La liberté d'expression est-elle un droit absolu ?» Ce qui est intéressant dans cet article, c'est que l'auteur remet en question ce qu'il appelle la thèse absolutiste, qui consiste à dire que la liberté d'expression est un droit qui ne doit pas être restreint ou mis en balance avec d'autres droits fondamentaux. Et c'est ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de voir que l'on retrouve cette vision dans le vocabulaire que l'on emploie quotidiennement avec cette idée que la liberté doit être intouchable, exclusive. Charles Girard nous montre alors que c'est une position difficilement soutenable, puisque comme tout droit, la liberté d'expression ne peut valoir en toutes circonstances ni être sans limite. Il évoque notamment deux sortes de limites. D'une part, la liberté d'expression ne peut s'étendre à tous les actes d'expression. Il prend notamment l'exemple du témoignage lors d'un procès qui est soumis à une procédure judiciaire, d'où la limite. D'autre part, elle ne peut pas valoir en toutes circonstances, et je cite ici directement Charles Girard, La liberté d'expression ne peut ainsi pas être et n'est nulle part comprise comme la liberté de dire n'importe quoi à n'importe qui, n'importe comment, n'importe où et n'importe quand. Elle a comme tout droit un champ d'application fini. Donc pour répondre à la question originellement posée, bien sûr que la liberté d'expression, et il en va de même pour la liberté de la presse, sont influencées et concurrencées par des facteurs multiples et notamment d'autres droits, d'un point de vue juridique. Je dirais même que cela est constitutif de ces libertés. Ce n'est donc pas qu'on ne peut plus rien dire, mais tout simplement que l'on ne peut pas tout dire, et cela se comprend bien juridiquement. Et justement, en lien avec ce qui vient d'être dit, avec cette idée notamment de liberté au caractère relatif, limité, j'aimerais revenir sur les menaces évoquées tout à l'heure, pour m'attarder notamment sur le phénomène de censure, qui semble être l'une des grandes menaces dont on parle fréquemment aujourd'hui, notamment parce qu'il semble que les cas se multiplient un peu partout en Europe. Lucie, j'aimerais justement revenir avec toi sur cette notion de censure. De quelle nature est-elle, d'ordre politique, économique ?
Ah, la censure, c'est un sacré fourre-tout, un argument axiologique qu'on brandit à tout bout de champ. Alors, puisqu'on est porteur de l'héritage des Lumières, on est amené à voir la censure comme l'abus d'autorité par excellence. Là où, auparavant, en fait, elle était comprise comme le garant de la paix sociale, empêchant le scandale, cette explosion dangereuse pour l'ordre politique et social. Et en l'occurrence, elle est toujours là. Comme tu l'as illustré, Mathéo, la censure participe du cadre de la liberté d'expression et permet son libre exercice. Avant que je commence à vous brosser un tableau noir de la liberté de la presse dans l'Union européenne, une petite précision seulement que Jade a évoquée mais qui ne fait pas de mal à être rappelée, l'Europe reste encore et toujours le continent le plus sûr au monde pour les journalistes. Voilà pour les nombrilistes européens, je vous l'annonce, vous n'êtes pas les seuls en crise. Malgré cela, depuis une dizaine d'années, on observe une dégradation lente mais constante dans de nombreux pays de la liberté de la presse. Et cela passe par la transformation de la censure qui est devenue multiforme. Contrôle économique, pression politique, mesures gouvernementales de crise, procédures judiciaires. Il serait plus juste de parler de plusieurs types de censure, la plupart d'ailleurs invisibles pour le citoyen lambda. Selon le rapport 2024 de l'Union européenne sur l'état de droit, je cite, « les conditions de travail des journalistes et le manque d'indépendance de la gouvernance des médias de services publics dans plusieurs pays demeurent préoccupants ». Aujourd'hui, Jade, tu l'as évoqué, la crise économique des médias les plonge à trouver des financeurs politiques et à accroître leur dépendance éditoriale. Certains pays de l'UE ont du mal à imposer la transparence sur les informations des détenteurs de médias. En Tchéquie, par exemple, des préoccupations subsistent en ce qui concerne le manque de transparence en matière de propriété et de conflits d'intérêts. On en parlait d'ailleurs dans l'épisode précédent sur l'indépendance médiatique. Les journalistes sont aussi régulièrement soumis à des pressions politiques sous diverses formes. Agressions physiques, cyberharcèlement, campagnes de diffamation, surveillance ou encore intimidation. En 2021, plusieurs États sont accusés d'avoir utilisé le logiciel Pegasus pour espionner, entre autres, des opposants et journalistes. On compte parmi eux la Grèce, la Pologne, la Hongrie et l'Espagne. En novembre dernier, Gabriele Nunziati, correspondant italien à Bruxelles pour l'agence de presse Nova, est licencié après avoir interrogé la Commission européenne sur le financement israélien de la reconstruction à Gaza. Avec le Covid en 2020, l'UE a dû rappeler à la Pologne et à la Hongrie la nécessaire protection de la liberté d'expression, alors que les deux États restreignaient progressivement les libertés fondamentales pour cause de crise nationale. Passer par le droit semble également très commode, vu l'abus des poursuites judiciaires, dénommées SLAP, donc SLA2P, qui est l'acronyme de la dénomination anglaise Strategic Lawsuit Against Public Participation. À travers les motifs de diffamation, d'atteinte à la réputation, de secret d'affaires, des acteurs politiques et économiques tentent de décourager psychologiquement et financièrement les journalistes et de les dissuader dans leurs enquêtes futures. Cette lente progression de la censure marque une nette cassure entre Europe du Nord et Europe du Sud-Est. Les pays nordiques, les Pays-Bas et l'Estonie sont généralement bien classés pour leur transparence administrative, leur culture du journalisme d'investigation et la protection juridique qualitative des sources. À l'opposé, des pays comme la Hongrie, la Pologne, la Grèce ou encore les Balkans témoignent d'une dépendance politique et économique qui s'accroît, ce qui inquiète l'Union européenne.
Merci Lucie pour ta réponse, qui me semble fondamentale en ce qu'elle vient définir et même reconceptualiser la censure qui, comme tu nous l'as montré, participe de la définition de la liberté de la presse et d'expression en Europe. Alors justement, je vois déjà nos auditeurs réagir avec stupeur, n'est-ce pas paradoxal d'affirmer que censure et liberté de la presse et d'expression vont de pair ? Honorine, cela signifie-t-il que la conception que nous avons de la censure est erronée ? Je pense notamment ici à Pascal Mbongo, qui évoque un phénomène de banalisation du concept de censure. Peut-être pourrais-tu nous en dire quelques mots ?
Oui, je pense qu'il y a effectivement une forme de malentendu autour de la notion de censure. Dans l'imaginaire collectif, la censure renvoie souvent à une interdiction brutale, autoritaire et imposée par l'État. On pense souvent à un journal interdit, un livre brûlé ou une parole réduite au silence. Or, comme l'explique le juriste Pascal Mbongo, Cette vision est aujourd'hui en partie dépassée. Il parle d'une banalisation du concept de censure, dans le sens où on qualifie désormais de censure toute forme de limite, de critique ou de régulation de la parole. Mais juridiquement et démocratiquement, toute restriction n'est pas une censure illégitime. Dans un état de droit, la liberté d'expression et de la presse va de pair avec un encadrement légal, destiné à protéger d'autres droits fondamentaux, comme la dignité, la vie privée, ou encore la lutte contre l'incitation à la haine. Le paradoxe est donc seulement apparent. La liberté de la presse n'existe pas sans règles, et ces règles ne sont pas nécessairement synonymes de censure au sens autoritaire du terme. Le problème apparaît lorsque le mot « censure » est utilisé de manière excessive ou stratégique, pour délégitimer toute contradiction ou toute responsabilité juridique. En ce sens, la banalisation de la censure brouille le débat public. Elle empêche de distinguer entre une atteinte réelle à la liberté d'expression et les limites normales et même nécessaires qui permettent à cette liberté de s'exercer dans un cadre démocratique.
Jade, d'un point de vue législatif, quel est, si je puis dire, l'angle d'attaque lorsqu'il est question de menaces comme la censure, à manier, on l'a vu avec toi Norine, de manière prudente, s'exerçant sur les libertés de la presse et d'expression? S'agit-il de contrer ces menaces ou plutôt d'éduquer à ces menaces? Je pose cette question parce que déterminer la bonne manière de gérer les mutations de la sphère médiatique n'est pas évident, et on l'a vu, de nombreux acteurs sont impliqués, du financeur au récepteur, en passant par l'émetteur de l'information.
Alors, effectivement, d'un point de vue légal et législatif, l'angle d'attaque face aux menaces qui pèsent sur la liberté de la presse et d'expression ne peut pas être unique. Justement, parce que la censure aujourd'hui est rarement frontale et qu'elle doit être maniée avec prudence, on ne ferme plus un journal du jour au lendemain, on agit de manière plus diffuse, plus indirecte. Le droit a d'abord pour fonction de contrer concrètement les menaces en posant des garde-fous. C'est le rôle des normes juridiques classiques, protection des sources, interdiction des ingérences politiques dans les médias publics, encadrement de la concentration des médias, ou encore lutte contre les procédures judiciaires abusives. On ne lutte plus contre la censure au sens strict, mais contre des formes de pression structurelles. Cette réponse juridique a ses limites. Le cadre légal intervient souvent après coup, une fois que les dérives sont déjà visibles. L'Union européenne elle-même l'a reconnu tardivement. Pendant longtemps, la liberté de la presse était considérée comme une compétence strictement nationale, ce qui a laissé s'installer des pratiques de médias capture ou de pression économique avant toute réaction coordonnée. Cela montre que le droit seul ne suffit pas. C'est pourquoi l'autre dimension essentielle est celle de l'éducation et de la sensibilisation aux menaces. Éduquer, ce n'est pas seulement former les journalistes à leurs droits, c'est aussi permettre aux citoyens, les récepteurs de l'information, de comprendre les mécanismes de désinformation, les pressions économiques sur les médias ou les stratégies de délégitimation des journalistes. Une liberté de la presse formellement garantie mais socialement fragilisée reste vulnérable. Cette approche est d'autant plus nécessaire que la sphère médiatique repose sur une chaîne d'acteurs multiples. Les financeurs qui peuvent influencer les lignes éditoriales, les journalistes exposés à la précarité ou à l'autocensure, les plateformes et diffuseurs, et enfin le public. La crise économique des médias, par exemple, n'est pas en soi une atteinte juridique à la liberté de la presse, mais elle crée un terrain favorable aux pressions et à la réduction du pluralisme. Le droit peut encadrer, mais il ne peut pas tout corriger. On peut donc dire que l'enjeu n'est pas de choisir entre contrer ou éduquer, mais de combiner les deux. Le cadre légal fixe des limites et protège, tandis que l'éducation permet d'anticiper, de renforcer la vigilance démocratique et de rendre ses protections effectives. Sans cette double approche, la liberté d'expression risque de rester un principe théorique affaibli par des mutations médiatiques que le droit seul peine à suivre. Donc, face aux transformations actuelles de la sphère médiatique, la réponse ne peut être uniquement répressive ni uniquement pédagogique. Elle doit être structurelle en agissant à la fois sur les règles du jeu et sur la manière dont les acteurs, du financeur au récepteur, les comprennent et les utilisent.
Merci Jade pour ta réponse qui nous permet, je dirais, de compléter la définition de ce qu'est la liberté de la presse, ainsi que de la liberté d'expression, qui, comme tu le dis à raison, engage la responsabilité individuelle autant que collective.
Mais alors là encore, la responsabilité peut nous apparaître comme un concept très flou. Mathéo, peux-tu nous dire sur quoi repose la responsabilité quand il s'agit de liberté de la presse et d'expression ?
Alors tout d'abord, je dirais que pour les deux libertés, il est question du langage. Si la liberté de la presse engage un processus de diffusion de l'information, cela passe nécessairement par le langage écrit et ou oral. La liberté d'expression est encore plus explicite dans son intitulé, puisqu'il est question d'expression justement, ce qui nous conduit à nous attacher aux mots employés, donc à nouveau au langage. J'aimerais, pour répondre à cette question, m'appuyer notamment sur les travaux de la linguiste Anna Arzoumanoff, intitulée « Juger les mots, liberté d'expression, justice et langue ». Ce qu'elle nous permet de voir, c'est que la responsabilité qui engage la liberté de la presse et la liberté d'expression est, en premier lieu, celle des mots. Elle s'attache notamment au système juridique français dans son ouvrage et démontre que le langage, les mots que l'on emploie, ne sont pas considérés comme de simples opinions que l'on aurait du mal à restreindre, mais qu'au contraire, ils sont envisagés comme des actes qui peuvent avoir des conséquences concrètes, matérielles. On comprend dès lors toute l'ambivalence qui existe au sein de ces libertés, puisqu'il s'agit de trouver un équilibre entre d'un côté la protection du débat démocratique et de l'autre prévenir les atteintes aux droits des individus et des groupes. Ce que l'on voit bien ici, c'est que la liberté de la presse et la liberté d'expression impliquent une dimension concrète. Et par ailleurs, si l'on reprend l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on constate que le verbe utilisé est « pouvoir », impliquant alors l'idée de capacité s'inscrivant dans l'ordre du sensible, puisqu'il s'agit de faire quelque chose, de produire un effet. Un autre élément que l'on peut tirer de l'œuvre d'Anna Arzoumanoff, c'est l'idée que les mots peuvent s'inscrire dans l'ordre de la violence, s'il n'y a pas régulation. Dans ce cadre, liberté de la presse et d'expression accorde d'une certaine manière une capacité, un pouvoir, détenu collectivement et individuellement, d'où la responsabilité comme corollaire. Peut-être une dernière question pour toi, Honorine. On vient d'évoquer la notion de responsabilité qu'engage la liberté de la presse et plus globalement des médias, ainsi que la liberté d'expression. Alors selon toi, peut-on affirmer que cette question d'assurer la liberté de la presse dépasse en réalité la sphère médiatique ? On vient de le voir, cette question engage tous les individus et non pas seulement les journalistes. Elle engage également différents acteurs, économiques, notamment politiques. La question qu'on se pose alors, c'est de savoir quel enjeu la liberté de la presse représente pour nos démocraties. Peut-on parler des médias comme d'un critère démocratique ?
Oui, très clairement, la liberté de la presse dépasse largement la seule sphère médiatique. On a parfois tendance à la penser comme une affaire de journaliste, de rédaction ou de ligne éditoriale. Mais en réalité, elle concerne l'ensemble du corps social. Elle engage les citoyens qui s'informent, partagent et commentent l'information. Elle engage les acteurs économiques qui financent, possèdent ou influencent les médias. Et elle engage évidemment les acteurs politiques qui définissent les règles du jeu et peuvent, selon les contextes, chercher à les infléchir. Ce qui est fondamental, c'est que la liberté de la presse ne protège pas seulement ceux qui parlent, mais aussi et surtout ceux qui écoutent. Autrement dit, elle garantit le droit des citoyens à accéder à une information pluraliste, indépendante et contradictoire. Sans cette condition, le débat public se rétrécit, les points de vue se polarisent et la capacité collective à comprendre le réel s'appauvrit. C'est pour cette raison qu'on peut parler des médias comme d'un véritable critère démocratique. Une démocratie ne se résume pas à l'organisation d'élections ou à l'existence formelle de droits fondamentaux. Elle se mesure aussi à la capacité des médias à enquêter librement, à critiquer le pouvoir et à révéler ce qui dérange. Quand les médias jouent pleinement ce rôle de contre-pouvoir, ils rendent visibles des dysfonctionnements qui, autrement, resteraient invisibles. À l'inverse, lorsque la liberté de la presse est fragilisée par des pressions politiques, économiques ou judiciaires, ce n'est pas seulement la profession journalistique qui en pâtit, c'est la qualité même de la démocratie qui se trouve affectée. L'information devient moins diverse, plus contrôlée, parfois plus émotionnelle ou plus partisane, et les citoyens perdent progressivement confiance, à la fois dans les médias et dans les institutions. Finalement, j'aimerais finir en disant que défendre la liberté de la presse, ce n'est pas défendre une corporation ou un secteur particulier, c'est défendre un espace commun de discussion, un lieu où le pouvoir peut être interrogé, contesté et mis à l'épreuve. En ce sens, la liberté de la presse n'est pas seulement un droit parmi d'autres, elle est l'un des piliers qui permettent à la démocratie de rester vivante.
Eh bien voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de notre épisode. Les mots de la fin seront ceux du sociologue Arnaud Esquer, qui dit, je cite, « Quand on dit « on ne peut plus rien dire », on sous-entend qu'on pouvait beaucoup plus s'exprimer auparavant, sans réfléchir à l'histoire de la liberté d'expression et l'histoire de la censure en France. On a oublié ce qu'était la censure institutionnelle, beaucoup plus puissante qu'elle ne l'est aujourd'hui. » Les mots du sociologue Arnaud Esquer nous permettent de relativiser un peu quant aux questions portant sur la liberté de la presse et de la liberté d'expression. Oui, il y a des défis nouveaux et anciens qui menacent encore et toujours ces libertés, mais il ne faut pas non plus oublier d'où l'on vient et les progrès remarquables qui ont marqué notre histoire en matière de liberté. Comme on dit, il ne faut pas trop noircir le tableau, la liberté de la presse et la liberté d'expression ont encore de beaux jours devant elles. Merci aux chroniqueuses qui ont été à mes côtés aujourd'hui, à savoir Jade, Honorine et Lucie. Comme toujours, vos réponses claires et précises nous ont permis d'y voir plus clair.
Merci à toi, Mathéo, de nous avoir invités sur le plateau.
Merci.
Merci.
Merci à tous.
Au revoir.